Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Clémentine Sarlat est journaliste sportive et la créatrice du célèbre podcast La Matrescence, dans lequel elle parle accompagnée d'invités, de parentalité au sens large et informe sur tous les sujets, même les plus délicats. Pour Clémentine, devenir mère est une période sensible et elle a vécu ses deux maternités de façon très différente. Il en est exactement de même pour ses allaitements. Seul point commun, elle ne s'est pas renseignée, alors elle va se laisser porter. Entre allaitement instinctif, révélateur, évident mais écourté tôt, trop tôt pour Ella, et l'allaitement de Jasmine, sa deuxième fille qui lui a réservé quelques surprises, Clémentine s'est laissée porter, mais aussi surprendre par le chemin parfois cabossé que peut être l'allaitement, entre projections et réalités. Allaiter facilement et simplement mais devoir arrêter trop tôt, ou bien se donner volontairement du temps mais devoir s'adapter aux aléas d'un allaitement moins fluide, Clémentine navigue donc doucement mais sûrement au gré de ses envies et de ce que la vie lui apporte, sans pression. Sauf celle d'allaiter stylée encore cet été, dans cette robe blanche tagine banane qui attend sagement que les beaux jours arrivent. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Clémentine, bienvenue dans Milkshaker.
Salut Charlotte, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ouais, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation justement. Clémentine, voilà, sans surprise aujourd'hui nous allons parler à nouveau allaitement et je t'ai sollicité pour que tu me racontes ton histoire ou plutôt tes histoires parce que tu as 2 enfants. Est-ce que Clémentine, pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas déjà, tu pourrais te représenter et nous dire voilà, qui tu es, qui sont tes enfants et ce que tu fais dans la vie?
Bien sûr, alors, je m'appelle Clémentine Sarlat, je vais avoir 33 ans bientôt. J'ai 2 petites filles, Ella qui a 3 ans et demi bientôt et Jasmine qui a eu 4 mois. Je suis podcasteuse, journaliste, prof de yoga pré-postnatal, event host, enfin bon, je sais pas, j'ai plein de... Je suis une slasheuse.
T'es une slasheuse.
Ouais, voilà. Avant, j'ai été longtemps journaliste à la télé. Et puis quand j'ai eu ma première fille, au bout d'un an, j'ai tout quitté parce que ça ne correspondait pas du tout à la vie que je voulais mener avec elle. C'était trop difficile et j'ai eu la chance de lancer le podcast La Matrescence et que ça marche. Et aujourd'hui, bah, c'est aussi mon métier, donc je suis hyper fière de ça d'ailleurs. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai.
Tu peux.
Oui, merci. Et j'ai allaité mes 2 filles, voilà.
D'accord, donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que tes 2 enfants ont été allaités. Et ton témoignage, il m'intéressait, Clémentine, parce que bah, voilà, tu l'as expliqué, tu as changé de vie, finalement, après la naissance de ta première fille. Et donc, j'avais envie de voir avec toi comment ce changement de vie, finalement, il avait influé ou pas sur tes allaitements. Donc déjà, pour voir l'âge, est-ce que tu peux me dire
quelle vision éventuellement tu avais de l'allaitement avant que tout ça commence finalement. Est-ce que pour toi c'était une évidence que tu allais allaiter? Est-ce que tu t'étais dit pourquoi pas, si ça fonctionne tant mieux, sinon tant pis? Voilà, c'était quoi le prérequis pour toi?
Clairement, j'avais dans la tête que je ne voulais pas allaiter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été allaitée. Ma sœur a été allaitée. J'ai vu plein de photos de ma mère qui allaite. Mais je me disais, c'est pas pour moi. Et en fond, la question, c'était plutôt, je veux qu'on soit égalité. Enfin, c'est pas la question. Le postulat, c'est je veux qu'on soit égalité avec mon mec. C'est hors des questions que j'allaite et que ce soit moi qui fasse tout. Je veux qu'il fasse autant que moi. Donc, j'ai vraiment abordé l'allaitement sous cet angle, en mode militante et pas du tout renseignée sur quoi que ce soit de cette question. Et au 8e mois de ma grossesse, on a fait des cours de prépa à l'accouchement avec mon mec et on a eu un cours sur l'allaitement que j'ai trouvé très bien fait parce que nous a expliqué les avantages et les inconvénients de l'allaitement et les avantages et les inconvénients du biberon. Et en fait, sans nous dire allaiter c'est mieux, prendre le biberon c'est mieux, peu importe, elle nous a juste exposé les choix qu'on avait avec de l'information, et ce qui pour moi c'est crucial. Et là je me suis dit ok, bon ben je vais essayer la tétée d'accueil et pourquoi pas les 3 premiers jours avec le colostrum. Et en fait, à partir de ce jour-là, donc tu vois, on était peut-être 5 semaines avant l'accouchement. Et ce qui était chouette aussi, c'est que mon mec, ça n'a jamais été une pression ni pour l'un ni pour l'autre. Il m'a juste dit, tu fais ce que tu veux. Enfin, on n'en a pas trop discuté, finalement. Donc, je suis arrivée à la maternité en me disant, je vais tester. On verra bien.
C'était advienne que pourra, ça se tente.
Avec donc, en revanche, zéro information sur ça se passe comment l'allaitement, qu'est-ce qu'il faut faire, le développement, la croissance. Enfin, zéro, juste, je savais qui me correspondrait ou pas, et j'ai fait le choix de dire on tente.
Ok. Et alors, comment ça s'est passé? T'as accouché? L'accouchement s'est bien passé?
Non. Enfin, sur le coup, je me suis dit ouais, l'accouchement c'était bien. Et puis, après avoir gratté, avoir compris tellement de choses, je sais que pas du tout, c'est pas un accouchement que je souhaite. Enfin, c'est un accouchement que je ne souhaite pas aux femmes, en fait. C'est un accouchement qui s'est bien passé pour le milieu hospitalier et qui est une norme, mais qui, je répéterai pendant de longues années, ne devrait pas être la norme. J'ai quand même fait du pot à pot assez rapidement, mon mec aussi, puis on est reparti en chambre. Bon, tout ça, je te parle d'un truc assez flou, hein, je pense que pour toutes les femmes, à ce moment-là.
On est un peu dans le pâté. Hein.
On va aller un peu loin. Mais j'ai envie de te dire, je me souviens de sa mise au sein, mais je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, je sais que je l'ai fait. Et je me souviens surtout que les 3 premiers jours, elle était collée à mon sein, enfin elle était tout le temps sur mon téton, donc elle m'avait fait un peu mal, forcément. Et je me souviens surtout qu'au bout du 2e jour, alors que j'expliquerai après pour Jasmine, c'est comme ça que se passent mes allaitements en vrai, au bout du 2e jour, elle prenait pas grand chose. Ils m'ont dit oui, là, ils ont fait le petit test de glycémie, ça va pas du tout, il faut lui donner un biberon. Ok, sans qu'on m'explique, on va vous accompagner, t'inquiète pas, l'allaitement c'est comme ça, mais ça va venir. Donc ils lui ont filé un petit biberon, voilà. Et je me souviens que ça a été aussi un moment dans mes suites de couches où j'ai pleuré, beaucoup pleuré, parce que je me sentais nulle, je m'étais dit, mais en fait je suis pas capable de l'allaiter, de lui donner à manger, pourquoi elle prend pas, pourquoi ça fait mal, alors que j'avais pris ma décision de me dire j'essaye quoi. Tu vois, c'était frustrant ce contraste de me dire, déjà, j'ai l'impression de faire un grand pas parce que je le tente. Et à côté de ça, je me sens pas trop soutenue, quoi. Donc, ils lui ont filé ce biberon. Ce qui a dû retarder ma montée de lait, forcément, puisqu'elle n'a pas tiré sur mon sein. Et moi, j'ai pas eu la sensation de montée de lait 3 jours après. Vraiment pas. Parce que ma mère, elle me disait, mais t'as pas mal au sein, tu dois pas aller sous la douche. Je dis, non, franchement... Ok, ça va. Et donc, bizarrement, pendant les 3 premières semaines, c'était difficile. Hein, mais j'ai pas souffert d'une montée de lait. Je me suis pas dit, c'est horrible, ça me fait mal et tout. Ça me faisait mal les crevasses, j'en avais. J'ai un peu allaité avec des bouts de sein au début. Et puis j'ai une super sage-femme ensuite de couche qui m'a bien aînée et qui même après 3 semaines, enfin dans les 3 premières semaines, j'ai envoyé texto, elle me disait t'inquiète ça, elle m'a aiguillée et ça m'a beaucoup aidée. Puis en fait 3 jours après, même après le colostrum, je me suis dit non, en fait je vais allaiter. Je vais allaiter et je ne vais faire que ça en fait. Il y a même pas moyen qu'on m'enlève mon bébé et que je passe au biberon. C'était alors que ça faisait mal, hein. Mais je sais pas, il y avait déjà tout de suite ce lien, cette connexion incroyable qui s'était créée. Et c'était même plus une question en fait. Et dans ma tête, je me dis mais comment, pourquoi je voulais pas en fait, je comprends pas.
Ça a fait partie de ce que tu appelles ta matrescence et des changements qui se sont opérés rapidement après ton accouchement. L'allaitement en a fait partie finalement. Tu t'es dit en fait j'ai besoin d'être près d'elle, c'est une évidence. Elle a besoin de moi aussi et ça passe en partie par l'allaitement.
Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, mais. Pour moi, mon accouchement, il n'a pas été idéal puisque j'ai pas du tout ressenti une vague d'amour quand elle est née. Alors vraiment pas. C'était vraiment le soulagement de « enfin c'est fini, j'en peux plus de ce calvaire là, je sais même pas où elle était ». Enfin, voilà, c'était pas « j'ai eu mon bébé ». Par contre, l'allaitement, ça a tout de suite créé ce truc, cette bulle d'amour incroyable et ce tsunami d'amour. Je pense plutôt que c'est l'allaitement qui me l'a créé et pas l'accouchement. Donc vraiment, ça a été une symbiose et une évidence. Et c'était très charnel et c'est vrai. Je pense que c'est inexplicable. Et même des fois, je regardais mon mec, je dis franchement, je suis triste pour toi que tu ne connaisses pas ça. Parce que ça a été tellement une des plus belles expériences de ma première maternité que je me suis dit, mais comment, encore une fois, comment est-ce que j'ai envisagé de ne pas le faire? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est l'avant et l'après premier bébé, quoi, finalement.
C'est ça, exactement.
On se découvre en partie. Ok, comment ça s'est passé ensuite? Donc, les premières semaines, tu disais, ont été douloureuses. Ensuite, ça s'est réglé rapidement. Tu as pu allaiter combien de temps et là?
Alors après, franchement, c'était hyper simple. Parce que je parlerai de ma deuxième expérience, c'est pas du tout aussi simple. Je me suis pas rendu compte parce que je n'ai étudié... Enfin, j'ai lu aucun livre. Je savais rien de l'allaitement. Je faisais... Voilà, et ça se passait très bien. Et le gros drame de l'allaitement en France et dans notre société, c'est qu'on doit reprendre le travail. Et moi, j'avais un travail incompatible avec le fait de pouvoir allaiter sur une longue durée parce que je partais trop en déplacement. Enfin, incompatible. Si j'avais voulu vraiment, ok, j'aurais pu tirer mon lait tout le temps, le mettre... Enfin bon, si j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans, c'était déjà beaucoup trop pour moi, j'étais trop fatiguée, donc j'ai dû sevrer ma fille... Je pense à la 8 ou 9e semaine, quand j'y pense. Et donc, pour faire progressivement sur un mois. Et ça a été terrible. Ça a été vraiment... ça a été pour moi une mini-dépression. Vraiment, parce que j'étais dans une anxiété monstrueuse, dans un regret, une angoisse. J'avais l'impression vraiment qu'on me volait quelque chose et que j'étais obligée de faire ce sacrifice d'arrêter alors que c'était absolument pas mon choix. Et que ça se passait vraiment pas bien. Et en plus, ça s'est passé au moment où, en décembre 2017, il y a un gros scandale sur le lait infantile.
Et
à
oui,
ce moment-là.
Exact.
Vraiment, c'est pile au moment où je la sèvre qu'il y a ce gros scandale. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais lui donner du... Alors, bon, évidemment, je vais pas donner les marques qui étaient impliquées, mais c'était vraiment un timing pas propice à ma santé mentale. Et ça m'a beaucoup interrogée de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vis ça comme un gros deuil, comme une forme de dépression? Donc tu me connais, si t'écoutes le podcast, je me pose beaucoup de questions, donc j'ai besoin de trouver les réponses, donc j'ai cherché des réponses à ça. Il y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet, et sur l'allaitement notamment, mais il y a beaucoup de témoignages de femmes qui corroborent ce que j'ai vécu, donc qui expliquent que ça peut... il peut y avoir une sorte de dépression quand l'allaitement s'arrête et qui n'est pas choisi. Je parle vraiment quand c'est vécu de la manière dont je l'ai vécu, où ça m'a été imposé, quoi. Et je me souviens de pleurer, de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je l'ai déjà donné le biberon? Alors ça allait, tu vois, mais... Et c'est le moment où j'ai commencé à avoir une psy et je lui disais, mais j'arrive pas à lui donner le biberon en plus, c'est trop dur. Et donc on a aussi travaillé là-dessus. Elle m'a dit, déjà la première chose à faire, ce serait bien de lui donner quand elle a pas faim et le faire comme un jeu. Donc c'est le meilleur conseil qu'elle m'ait donné parce que du coup, parce qu'il y a cette pression aussi quand tu passes au biberon. Ça se fait pas en un clinquement de doigts. T'as pas envie de voir ton bébé refuser de manger, alors que tu sais qu'à disposition, t'as ton sein qui peut tout calmer.
Ouais, c'est très compliqué. Et toi, t'as ce qu'il faut dans les seins, t'as de surcroît pas envie de lui donner le biberon.
C'est ça, il y avait aucune raison.
Ouais, t'as pas de raison valable, inhérente uniquement à toi de lui donner des biberons parce que tu voudrais continuer, mais le travail t'y oblige. On a tous des réalités. Financière.
C'est ça.
Aussi, il faut reprendre le travail et à cet instant-là, en fait, de toute façon, t'as pas envie de lui donner le biberon, quoi.
Non. Donc, voilà, ça a été une grande étape. Et tu vois, quand j'y repense, elle n'avait que 8 semaines. C'est tellement ouf quand tu sais comment c'est galère l'allaitement, la mise en place, le rythme. Tu dis, c'est... Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. C'est au moment où, pour toutes les femmes, quasiment, ça commence à être... voilà, ça commence à se mettre en place, à être quelque chose de beaucoup plus serein. Eh ben c'est là où on fait le choix de tirer à l'été et c'est quand même un sacrifice qui est fort. Parce que l'allaitement, c'est pas simple, mais quand t'as cette récompense, cette chaleur de ton bébé contre toi, c'est pas pareil. Par contre, quand t'as le tire-lait, on est d'accord que c'est pas la même sensation. Quoi.
T'es moins sexy, ouais, moins sympa.
Ouais, c'est sûr.
Oui, et puis comme je dis, 8-9 semaines, donc voilà, ça fait 2 mois, ou 2 mois et demi, c'est aussi la reprise du travail classique. Quand on est salarié, c'est le nombre de semaines qu'on reste à la maison. Et moi, je disais toujours, j'ai repris un peu plus tard, mais c'est aussi la période où les bébés, ils commencent vraiment à s'éveiller, quoi. Mmh. Et donc, stopper ce lien qu'on a mis en place à la période où eux commencent à s'éveiller, à être vraiment dans l'échange, etc., c'est un crève-cœur. C'est trop tôt, ça, de toute façon. C'est pas...
C'est sûr. C'est dur. Mais j'étais hyper fière d'avoir essayer l'allaitement et d'être tombée amoureuse de l'allaitement finalement, et de m'être dit ouf, je suis pas passée à côté de ça. Okay. Voilà, c'était mon choix et je comprends tout à fait que ce soit pas le choix de toutes les femmes. Mais au final, je me dis, il doit y avoir beaucoup de femmes qui pensent comme moi et qui se sont privées de tenter l'allaitement en se disant c'est pas pour moi. Parce qu'on n'a pas une bonne éducation autour de l'allaitement. Et quelque part, ça m'a fait me dire, c'est triste, tu vois.
Oui, et puis il y a aussi une idée autour de l'allaitement qui parfois est justifiée, c'est que l'allaitement, ce n'est pas facile à mettre en place. Mmh. Et que le temps que ce n'est pas facile à mettre en place, plus éventuellement le temps que ce n'est pas facile de sevrer, si on a un job incompatible avec un peu de tir à l'allaitement, c'est le temps que ça se passe bien et après le temps qu'il faut arrêter, quoi.
C'est clair.
Il se passe pas beaucoup de temps entre les deux. Mm. Donc là, elle a été sevrée à 9 semaines, un peu contre ton gré, mais en tout cas, elle a finalement accepté de prendre le biberon.
Oui, après ça a été, c'était pas si difficile, je sais pas. J'imagine que quand t'as pas le choix, finalement, ça passe, quoi, hein, tu le fais. Ça s'est étalé sur 1 mois, tu vois, je l'ai fait vraiment progressivement. Je me souviens très bien de la dernière tétée, c'était la veille du nouvel an, avant que je reprenne le travail, et c'était une tétée de nuit, j'étais sur mon canapé et je me suis dit bon ben voilà, c'est la dernière. Rien que d'en reparler là, je me souviens très bien de ce moment. C'était pas de dire bon ben on clôt un chapitre et on en ouvre un nouveau, c'était la tristesse de me dire c'est fini. Et l'aspect esthétique, mais ça faisait 9 mois que j'avais des seins, parce que je suis pas beaucoup de poitrine à la base. Et le lendemain, je dis à mon mec, mais regarde, j'ai plus rien, ça y est, tu vois, c'était tout plat, c'était en 2 secondes, c'était fini, quoi. Après la dernière tétée, c'était fini. Et j'étais là, ok, d'accord, bon, ben voilà, c'est fait, c'est bon. Et puis j'avais aussi eu croyance que mes cheveux sont encore magnifiques, je ne les ai pas perdus, je ne les perdrai pas, c'est bon. Ah non, en fait, je n'avais pas terminé d'allaiter. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté d'allaiter, mes cheveux, ils sont tombés. Oh là, c'était double peine, tu vois. Les hormones,
plus de sang,
la chute d'hormones, voilà. C'était allez, chute d'hormones, plus de seins, plus de cheveux, je repars au travail, allez, tout va bien. Je suis au top de ma vie, là.
Ok, ouais, donc c'était dur et puis c'était subi, quoi. Enfin,
ouais, c'est pour ça que franchement, ce que je disais à mon mec la dernière fois, c'était donc mes deux filles sont nées à 3 jours d'écart, donc tout ce que je le vis de la même période avec mon autre fille, donc j'ai tous les mêmes repères de temps.
Tu fais le parallèle hyper facilement.
Je me disais là, il y a 3 ans, j'étais dans la plus grosse période d'anxiété que je n'ai jamais eue de ma vie, quoi, parce que je venais de reprendre le travail, ma fille, je l'avais sevrée, j'étais loin d'elle souvent. Et je vois juste la différence là aujourd'hui, mais je me dis, mais comment je me suis infligé ça? Enfin, c'est pas moi, hein, c'est la société en général. Et je me dis, mais c'est quelque part, c'est inhumain, parce que quand je vois le contraste avec aujourd'hui, c'est terrible, quoi, de faire souffrir les mères de cette manière-là. Et je ne me pose pas en victime, je constate juste qu'on n'a pas les armes pour vivre sereinement une maternité et un allaitement tranquille, quoi.
Tout à fait. Donc du coup, bon, Ella a grandi, tout va bien. Jasmine est arrivée cette année et là, tu t'es dit, donc à 3 jours d'intervalle, tu disais, donc là, tu vas nous raconter les 2 histoires finalement en parallèle. Comment t'as envisagé la chose cette 2e fois? Tu t'es dit que tout serait différent. L'allaitement, ça avait une place de choix parce que la première fois, t'avais subi cet arrêt et t'étais mal à l'aise avec ça. Comment t'as envisagé la chose cette 2e fois?
Bon, déjà, c'était clair, on est déjà allé à l'été et j'étais même, la petite histoire, donc quand je suis tombée enceinte, que j'ai fait le test de grossesse. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Alison Cavaillé, donc qui est la fondatrice de Tagine Banane, en lui disant « Tiens, je suis enceinte, je suis trop contente, je vais enfin pouvoir tester tes vêtements. » Parce que donc Alison, je l'ai rencontrée un an avant ça, en 2018, en 2019, et je faisais que lui dire « Finesse, je suis dégoûtée, j'ai pas eu tes vêtements pendant que j'ai allaité, j'aurais tellement aimé, c'est trop bien et tout. » Et gentiment, Alison, elle m'a offert plusieurs t-shirts, donc je les avais, mais ils me servaient pas du tout pour l'allaitement. Je crois, comme beaucoup de femmes, et c'est ce qu'a réussi à créer Alison, c'était un peu ma carotte de me dire « je suis trop contente, je vais pouvoir utiliser ces vêtements », tu vois.
Mais tu plaisantes, mais c'est hyper fréquent. Moi, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis ostéopathe et donc je traite des bébés qui ont des difficultés à téter. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de mamans allaitantes. Et pas une seule fois, enfin, plusieurs fois plutôt, j'ai entendu « il faut que vous m'aidiez, il faut que ça fonctionne parce que j'ai acheté une collection entière de tagine banane et en fait, je peux pas ne pas mettre ces t-shirts, quoi. C'est hors de question, je veux allaiter en tagine banane. J'ai pas acheté tout ça pour rien.
mais c'est tout à fait ça. Franchement, c'était vraiment, je te jure, le lendemain, je me suis dit, oh, je suis trop contente, je vais pouvoir tester ces vêtements en allaitant. Enfin, je sais pas pourquoi, c'était un truc vraiment qui m'a marquée, motivée. Donc, après, j'ai un tout petit peu trop fait la fière, tu vois, pour la maternité nous rend humbles. Puisque donc j'ai accouché à la maison, donc j'ai un suivi de sage-femme libérale qui est globale. Donc elle m'a suivi du premier jour au gros où je tombe enceinte jusqu'à deux mois après l'accouchement. Et pendant la prépa, c'est tout le long de la grossesse. La prépa, vraiment, c'est pas juste des cours à partir du 6e mois. Enfin, et elle me dit, bon, en fait, est-ce que tu veux quand même faire la prépa sur l'allaitement? Je lui dis, non, t'inquiète, je suis rodée, pas de problème, ça s'est super bien passé la première fois. Alors que, je le rappelle, je n'avais lu aucun livre, je ne savais rien de l'allaitement, en fait. Hein. Juste, j'avais ma petite expérience de 3 mois. Et elle me dit, ok. Voilà, donc je pars comme ça, quand même, hein, sur l'allaitement.
Donc, à nouveau, non renseignée.
Non renseignée. Non, avec la prétention de croire que je sais des choses.
Pire.
Ouais, c'est pire. C'est exactement, c'est pire. Et donc là, en revanche, Jasmine naît à la maison. C'est l'accouchement le plus incroyable. Enfin, là, vraiment, ça, je le souhaite à toutes les femmes. C'était tellement merveilleux. C'était juste fou.
Bah ça, rappelle qu'il faut aller écouter l'épisode de ton podcast. C'est le numéro combien? Rappelle-le parce que il est incroyable.
C'est le numéro, je sais pas. Mais
bon, enfin, c'est le récit de naissance de Jasmine à la maison.
C'est en novembre 2020, voilà.
Écoutez-le. Pour entendre une version différente de ce qui existe, ça c'est l'accouchement, version naturelle, quoi, sans médicalisation.
Ouais,
c'est
l'accouchement que je souhaite à tout le monde, vraiment. Donc c'était merveilleux. Donc quelques dizaines de minutes après, je suis sortie de la piscine et pour expulser le placenta et pouvoir faire la première tétée sur mon canapé. Et donc là, j'ai une vidéo, j'ai une photo et tu vois mon sourire sur cette tétée. Enfin, ça rit. Hein, je me souviens de tout trop bien, quoi. Elle était tellement petite et tu sais plus ce que c'est d'allaiter. Alors moi, j'ai beaucoup de colostrum qui coule pendant la grossesse. Donc, dès le 6e mois, ça coule, tu vois. Faut que déjà que je mette des protections, sinon j'ai des fuites. Ouais,
j'étais pareil. T'es du gang des petits seins qui allaitent hyper bien et qui font du colostrum hyper tôt.
Ouais, et quand je vois la tête de ma fille aujourd'hui, comment c'est un petit peu de choc, je sais que mon lait, il est riche.
Il est bien.
Mais, et donc, cette première tétée, elle était magnifique. Enfin, voilà, c'était tout ce que j'aurais aimé avoir. Pour ma première, mais bon, après, c'est pas que j'ai pas de regrets dans le sens où voilà, c'est une première maternité, on peut pas tout avoir nickel, c'est pas possible. Enfin, c'est dans le monde idéal, ça serait génial parce que ça voudrait dire qu'on a une société qui éduque correctement les nouveaux parents, les futurs parents, et c'est pas encore le cas. Mais bon, on y vient. Et une fois que t'as des informations, c'est pas pareil. Je dis ça quand même en étant hyper présomptueuse, puisque à ce moment-là, donc à J plus 3 minutes, là, enfin M plus 3 minutes, je me dis, oh, c'est bon, nickel, l'allaitement.
Ça va rouler.
Non, oui, non, pas du tout.
Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, bon, déjà, j'ai eu une vraie montée de lait à 3 jours, là. Là, j'ai dit, ah, mais ça fait super mal. Donc, ma sage-femme m'a dit, feuille de chou, feuille de chou. J'ai dit, ah ouais, t'es sûre? Elle me dit, ah, feuille de chou. Donc effectivement, magnifique les feuilles de chou, ça pue, c'est horrible, mais c'est génial. Mais franchement, ça m'a fait marrer en même temps, tu vois, c'est un petit peu de... J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait, donc c'était bien, je testais de la nouveauté. J'ai eu un petit peu de crevasse, mais pas vénère, pas comme... Et là, je trouve que c'était plus tranquille. Mais par contre, donc ma fille a commencé à avoir beaucoup le hoquet. Elle a commencé à s'étouffer beaucoup. Elle s'endormait pas au sein comme Ella pouvait le faire, à se détendre. Enfin, ça allait, mais pas non plus foufou, quoi. Pas comme Ella. Et puis, je commençais à sentir que ça pinçait un peu. J'avais jamais eu cette sensation avant. Et puis, vers la sixième semaine, j'ai un engorgement. Et donc, là, en revanche, je suis partie pour me dire que j'allais être le plus longtemps possible. Et donc j'ai un engorgement et je demande à Julie, qui est consultante en lactation sur La Rochelle, si jamais elle peut faire une consultation en visio. Elle me dit, ah ben écoute, ça va te faire rigoler, je vais voir Marie K.O., donc, avec qui tu as fait un épisode, demain, t'es sur ma route, si tu veux, je m'arrête et je vais voir Marie après. Ah, je lui dis, bah oui, avec plaisir.
Parfait.
Donc première fois de ma vie que je fais une consultation en lactation. Et donc là, en fait, elle m'a dit, oui, bon, alors, en gros, mon engorgement, c'était plutôt dû au fait que j'avais eu un soutif qui me serrait trop, que j'avais mal réglé. Et elle me dit, bon, par contre, là, je pense que ta fille, elle a des freins. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, bah, regarde, sa lèvre, donc j'avais jamais capté, mais la lèvre du haut ne s'est jamais retroussée. Et c'est vrai que je voyais qu'elle était un peu en mode tortue, là, tu vois, une tortue qui rentre tes lèvres, là, en haut. Et donc, on regarde tout ça, comment elle prend le sein, comment je l'allaite. Et avec Ella, jamais de ma vie, j'ai dû lui faire un raw. Jamais. Et Jasmine, c'était tout le temps. Obligatoire. Obligatoire le raw au milieu de tété, fin de tété, enfin tout le temps, tout le temps.
Ouais, le raw, c'est un signe de prise d'air, hein, tout simplement. Donc, c'est que la ventouse, elle est pas bonne.
Et elle a le lait qui coulait. Enfin, en fait, d'un coup, il y a plein de petits signes. Elle a la bulle sur la lèvre du haut. Plein de petits signes que je capte. Que je n'arrive pas à faire le lien, que c'est le problème d'un frein.
Tu connaissais les freins? Tu savais que ça existait?
Oui, mais je crois que Marie venait d'en parler sur les réseaux sociaux, Marie Liedemembao, ouais. Avec sa fille, avec Summer. Donc j'avais vite fait regarder, je dis ah ok. Mais moi, avant, je ne savais même pas ce que c'était un engorgement. Quand j'ai eu l'engorgement, je dis mais c'est quoi ça? Donc j'ai dû aller regarder, engorgement, ok. Donc j'ai dû aller regarder sur internet comment on fait le truc de la Madone, le sein dans l'eau chaude pour me désengorger. Coïncidence, j'étais chez Alison Cavaillé ce jour où j'ai l'engorgement, on dînait chez elle. Donc elle me dit, ouais, bah fais ça. Donc tu vois, vraiment, je partais de zéro. Je sais pas ce que c'était une mastite. Je n'avais aucune connaissance sur les termes. Je les avais entendus, mais aucune notion de ce que c'est la définition de chaque truc. Donc les freins, non, c'était un autre monde pour moi. Hein. Et quelque part, je pense, dans ma tête, c'était un peu ce truc, oh, c'est un peu à la mode, les freins. On en parle beaucoup là. C'est bon, c'est rien, tu vois.
Bon, c'est rien, mais j'ai mal, je m'engorge et,
c'est ça,
et mon bébé donc, a des problèmes digestifs.
Donc Julie me dit, bon écoute, ça serait quand même bien que tu vois Noëlla Rajanson, qui est la dentiste spécialisée, qui a une spécialité là-dedans, sur les freins, sur la frénectomie, juste pour voilà, faire confirmer, et la chiro, donc je suis allée les voir sur Bordeaux. Et donc, elle me confirme qu'il y a 4 freins, donc c'est même sur les 7. Mais donc, clairement, celui du haut de la lèvre, il est fort. Et au final, Julie, quand elle était là, elle regarde Ella aussi. Elle me dit, bah, c'est drôle parce que Ella, elle a la même chose en fait. Mais ça n'avait pas posé de problème sur mon allaitement. Et tu vois, Ella, elle est au biberon encore aujourd'hui, elle adore les biberons, elle a 3 ans. Et ben, hélas, elle a les bulles, tu vois, à la lèvre en haut, elle a les dents méga écartées. Donc maintenant, je vérifie quand elle dort qu'elle mette bien la langue en gros. Du coup, ouais, là, je regarde plein de trucs, tu vois, a posteriori. Mais comme ça n'a pas pesé sur mon allaitement, on est passé au travers.
Bah oui, c'est passé à la trappe, bien sûr.
Et ce jour-là, il y avait ma mère. Donc Julie a dit, bon, souvent c'est génétique. Donc elle regarde ma mère, elle me regarde, elle dit, bon, je crois que toutes les filles de la famille, là, vous l'avez, quoi.
Ah, c'est un truc de fille de la famille.
Voilà, okay. C'est ça. Donc c'était drôle, tu vois, on a regardé tout ça. Et donc j'en ai parlé à mon mec, parce que bon, c'est une opération quand même, la phrénectomie, c'est le choix des parents. Donc, mais ça commençait à me pincer sévère. Franchement, ça commençait à me faire très mal et c'était pas... Enfin, j'étais en tension permanente et j'avais très très mal au dos. Et en fait, tu es ostéo, donc tu sais, mais j'ai une très très bonne amie à moi qui est ostéo, spécialisée aussi dans les nourrissons et les femmes enceintes, mais pas dans les freins. Et je vais la voir, je lui explique. Elle passe 2 heures très gentiment avec Jasmine à lui détendre toutes les tensions du cou. Et je faisais que lui dire, j'ai mal dans le dos, tu vois. Et donc, le lendemain, je lui dis, putain, incroyable, elle pince presque plus là. Et elle n'est pas spécialisée, Karine, là-dedans. Et du coup, ça lui fait cogiter. Et je lui dis, attends, j'ai plus mal au dos là où j'ai mal d'habitude. Et en fait, j'ai fait le lien que quand elle pince, je me raidis d'une façon parce que j'anticipe la douleur. Et donc, je me crée une tension dans le dos. Et donc, dès qu'elle ne pince plus, j'ai plus cette tension dans le dos. Tu vois, c'est un jeu du chat et la souris entre elle et moi, quoi.
Ouais.
Et donc là, je dis à Clément, en fait, rien que pour moi, ma santé physique, c'est un projet d'allaiter long. On va la faire opérer parce que je veux mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Et j'ai regretté tellement de me dire, punaise, pour Ella, c'était facile, il n'y avait pas de problème. Et j'ai dû écourter. Et là, je vais faire un truc long et ça va être un peu le parcours du combattant. Donc, on l'a fait opérer 2 semaines après ça, je crois.
Ouais.
Avec la docteure Rajonson. Et c'est...
Comment ça s'est passé ?
Bon, ils sont super, hein, l'équipe, donc c'était génial. Moi, je suis pas très...
Clément, il était OK, il était pas réticent, il avait pas peur de cette intervention.
Je pense que si, mais lui, il est très, très sensible à la douleur physique de nos enfants, contrairement à moi. Moi, je suis très sensible à la douleur psychique.
Chacun donc, son
lui,
truc.
Lui, ça le paniquait complet. Moi, ça va, c'était pas... Je suis pas stressée de ces trucs-là, je sais que ça passe. Mais bon, quand elle est revenue de l'opération, elle était en hyperventilation. Enfin, c'était particulier, quoi. C'est un moment, faut accepter que son nourrisson de 8 semaines soit dans un état de détresse, quand même, tu vois. C'est une opération. Mais comme tout le monde, je pense que ce qui fait peur dans ces opérations-là, c'est la post-op. Hein. C'est pas tant l'opération en elle-même qui est compliquée, c'est de faire les soins derrière. Donc, il faut leur passer le doigt dans la bouche, leur ouvrir passer sur la cicatrice. C'est des douleurs, quoi, pour eux, franchement. Mm-hmm. C'est compliqué.
T'as senti la différence tout de suite ? Comment ça a évolué après la phrénotomie ?
Non, je dirais pas tout de suite. Non, et on est très honnête, et je trouve que Noëlla, elle est très honnête sur l'épisode qu'elle fait avec toi. Elle le dit, ça ne résout pas tout. C'est vraiment le départ, ça va aider, mais maintenant, c'est à nous de faire du taf, de les rééduquer. Donc, tu vois, dès qu'elle commence à repincer, j'ai retourné voir Karine, ma copine, parce qu'elle passait 2 heures à lui redétendre toutes les tensions du cou, et franchement, à chaque fois, ça faisait la différence. Donc, franchement, dans les premières semaines, pas du tout. Pas du tout. Moins de hockey, quand même. Mais elle s'étouffait tout le temps au sein, elle s'arquait, elle s'agaçait. C'est stressant, hein, quand ton bébé... ma fille, elle s'endort pas au sein, tu vois. C'est
pas pratique, ça. Quand on allait, c'est quand même un désavantage.
C'est vrai. Oui et non, on va dire, parce que du coup, elle peut s'endormir toute seule.
Ah, si elle s'endort toute seule, alors.
Voilà, David, tu vois ce que je veux dire. Je sais aussi la difficulté que c'est d'arriver à sortir de l'habitude au bout d'un moment pour les mamans, parce que c'est fatigant de toujours devoir endormir au sein. Ça arrive de temps en temps qu'elle s'endorme au sein. Et moi, c'est une victoire quand elle s'endort au sein. Je me dis, ah, c'est qu'elle est bien, c'est cool. Donc franchement, je suis très honnête, dans les premières semaines, ça a fait une diff un peu, mais pas spectaculaire. Mais on a tenu bon, on fait des exercices, on a des cicatrices, tout ça... Et puis, tant pis, j'ai continué, même si ça pinçait encore. Je me rendais très, vraiment compte que c'était très lié à si elle était la tête, enfin si elle avait des tensions. Donc j'allais voir aussi la chiro. On a tout fait pour ça. Et tu vois, c'est là que je me dis que l'allaitement, c'est un truc de privilégié parfois, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Hein. Soit on a une bonne mutuelle, mais c'est quand même tu sais mieux que personne, hein, les ostéos, vous n'êtes pas remboursés comme tous les autres professionnels de santé, donc c'est un
gouffre financier.
voilà, ça peut être si les mutuelles ne sont pas à la hauteur des séances dont on a besoin. Donc je me sens chanceuse et privilégiée là-dessus. Donc on a pu faire ça, que ce soit avec nos moyens financiers ou le fait que c'est une de mes copines, mon ostéo, et qui est vraiment top là-dessus. Et du coup, c'est chouette parce que elle, ça, je sais que t'es ostéo, c'est pour ça que j'en parle, hein, mais elle, ça lui a ouvert des perspectives sur comment traiter, tu vois, ça, quand les mamans lui disent des choses. Donc maintenant, elle aimerait bien se former et ça, elle trouve ça hyper intéressant.
Ouais, un peu comme quand on comme apprend toi. En devenant maman, en tant que pro, moi, un jour, j'ai un, deux bébés qui ont débarqué et je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ils se rebloquaient, etc. Et c'est comme ça que je me suis formée sur le sujet.
C'est ça, non, mais ça faut être confronté au truc pour pouvoir. Il y a ma fille qui me regarde par la fenêtre. Non, c'est bon, j'ai allaité juste avant. et du coup, en fait, l'allaitement, ça a quand même toujours été compliqué dans le sens où il faut faire l'euro. Elle a plus de hockey, ça c'est chouette, mais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a des moments où elle s'énervait, je peux dire, c'était rude, hein, j'ai un sein, elle me faisait vraiment mal dessus. Heureusement, pas de crevasse, tout ça, mais galère. Et puis, j'ai découvert aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai passé la marque fatidique, où j'ai arrêté d'allaiter Ella, je suis arrivée dans un monde complètement inconnu pour moi. Tu vois, parce qu'à partir des 3 mois de Jasmine, je me suis dit, mais en fait, là, je ne sais pas où on va, là, voilà. Et j'ai revu Julie, il y a aussi Aubrey qui est consultante à Bordeaux qui m'a suivie. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, là, je ne sais pas reconnaître les signes de faim de mon bébé. Parce qu'un nourrisson, il dort, quand il se réveille, concrètement, il a souvent faim. Donc je savais plus ou moins, il met les poings à la bouche. Enfin, voilà, tu vois, j'étais bien rencardée là-dessus. Mais à partir d'un moment où le bébé il passe 4 heures, 5 heures par jour bien éveillé, enfin, tu vois, c'est quand qu'il a faim en fait. Et j'arrivais pas du tout à anticiper ça. Donc je pense qu'elle arrivait sur mon sein, elle était hyper agacée. Moi, j'avais les seins très tendus, donc qui envoyaient beaucoup de lait. Je me suis rendu compte il y a 2 semaines que j'ai un REF très fort, donc un réflexe d'éjection.
Ouais.
Grâce à une personne sur Instagram avec qui j'ai discuté, tu vois, sur ça, qui est aussi spécialisée dans la lactation et qui me dit, mais est-ce que tu manges beaucoup de trucs galactogènes? Alors je dis, attends, galactogène, c'est quoi déjà? Tu vois, pour te dire comment je suis quand même à la ramasse. Et elle me donne la liste des aliments et je dis, en fait, je mange que les trucs qu'il y a sur les aliments, là, qu'il y a sur la liste, tu vois. Moi, je mange beaucoup de carottes, je mange beaucoup d'amandes, je mange beaucoup de purée d'amandes. Elle me dit, oui, peut-être essaye de diminuer pour voir. Et effectivement, tu vois, depuis 2 semaines, j'ai diminué. Je n'ai plus autant de rêves, donc elle s'étouffe beaucoup moins. Et je te dis tout ça parce que comme je sais que ça fait 2 semaines que je fais cet épisode avec toi, j'essaie de réfléchir à tout ça. Mm-hmm. Et en fait, ça fait 2 semaines où c'est cool, là. J'ai quasiment que des tétés où me fait pas mal et où elle commence à retrousser sa lèvre. Donc tu vois, l'opération c'était assez 9 semaines, 10 semaines, ouais. Et elle a 4 mois. Et on m'avait prévenu que retrousser la lèvre c'est un vrai exercice, que ça allait mettre beaucoup de temps. Et là je commence à voir qu'elle y arrive. Donc t'imagines, faut persévérer quoi. C'est
vraiment une rééducation en fait après la phrénotomie. Faut considérer la phrénotomie pas comme une solution. Alors parfois, c'est une solution d'urgence quand les bébés n'arrivent pas à s'alimenter, etc. On sectionne et puis ça fait quand même passer un cap. Mais dans les tableaux un petit peu plus filous, comme le tien, où les démarrages, ça passe et puis on commence à avoir des troubles digestifs, etc. Il faut le voir éventuellement comme quelque chose de rapide, parce que parfois, ça va mieux très rapidement. Mais très souvent, il faut plutôt le voir comme quelque chose à long terme, finalement. On le fait pour libérer cette langue, libérer sa mobilité, qu'elle se positionne correctement dans la bouche, qu'elle stimule bien le palais, qu'elle configure la mâchoire et les maxillaires de la bonne façon. Et dans ton cas, c'est ça, c'est vraiment la rééducation à force qui a fini par faire son œuvre. Et la lèvre s'est retroussée une fois qu'à l'intérieur, ça s'était rééduqué.
Ouais, ça commence juste. Et puis, comme tu dis, j'ai un tableau filou parce que moi, elle n'a pas du tout perdu de poids. Hein. Elle est costaude. Donc, il n'y avait pas cette indication de ça ne va pas, elle ne prend pas bien. J'ai toujours eu beaucoup de lait, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Enfin, voilà, je n'avais pas de soucis de ce côté-là. Donc, au départ, je ne me suis pas posé de questions sur il y a un problème. Parce que quand tu es novice et que tu ne comprends pas trop le mécanisme de l'allaitement, tu ne vois qu'en termes de poids aussi. Donc il y avait cet aspect-là qui rentrait pas en ligne de compte pour moi au départ, donc je m'étais pas posé la question de cette manière-là. Mais tu vois, le sacrifice, il faut pouvoir le faire, faut avoir le temps de faire la rééducation, tout ça. Mais comme je savais que je voulais allaiter longtemps, qu'elle allait rester avec moi à la maison, c'était différent parce que je savais que ça avait un sens en fait. Et en revanche, quand je te disais que ça a pas fait de différence tout de suite, si dans son visage. Elle était très froncée, enfin elle avait les sourcils froncés, elle avait quand même, tu vois, cette tension au niveau de l'arcade sourcilière.
Comme les bébés qui sont fâchés, on a l'impression qu'ils sont fâchés un peu.
Et ben là, c'était, tu vois, les photos, ça se voit. Elle avait le visage détendu en fait.
Ok.
Donc ça a joué.
On dit que dans l'allaitement et de surcroît quand il y a une prise en charge autour des phrénotomies, c'est hyper important l'accompagnement qu'on a autour. Quelle place tu dirais que ça a eu, toi, l'accompagnement, qu'il soit professionnel, tu vois, des professionnels de santé et affiliés que tu as rencontrés, comme de ton entourage?
Ouais, non, j'étais super bien accompagnée. Je trouve que c'est ce qui aussi nous a fait décider de le faire. C'est que Noëlla, elle a plein de professionnels autour d'elle. Elle insiste vraiment là-dessus, que c'est pluridisciplinaire, tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est top, franchement. Et je pense aussi, je vais être très honnête là-dessus, c'est que j'ai une position particulière dans le sens où j'ai ce podcast qui parle de maternité. Donc, les gens, ils sont très... partant pour m'aider sur plein d'aspects, parce que comme je parle ouvertement de plein de choses, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, il y a plein de gens qui sont venus me contacter, qui sont spécialisés là-dedans pour m'en parler, donc forcément tu te sens soutenue du coup. Et puis non, après autour, ils ont posé plein de questions, moi j'ai appris plein de choses, hein. C'est ce que je disais, tu vois, dans l'épisode que j'ai fait après toi avec Noëlla, je dis d'un coup t'as un nouveau monde qui s'ouvre à toi, freins rien que la position de la langue. Mais moi en tant qu'adulte, j'y pense tout le temps maintenant, comment je mets ma langue quand je vais me coucher. Il y a des soirs où j'ouvre la bouche, je dis non, remonte ta langue, ferme la bouche. Tu vois, ça joue sur moi aussi.
Oui, ça t'a donc même fait faire du coup un épisode sur les freins de langue pour la matrescence.
Exactement, ouais, carrément, parce que ça m'a... Parce qu'une fois que j'ai partagé l'expérience sur les réseaux sociaux, j'ai eu 100 000 questions. Donc j'avais redirigé vers ton épisode. Et après, je me suis dit, bah attends, peut-être que les gens, ils ont vraiment des questions. On va refaire un truc avec leurs questions à eux.
Oui, et aussi parce que, comme tu l'as bien dit, ça concerne pas que les bébés allaités, en fait, ces histoires de freins de langue. C'est un truc qui est mis en lumière plus facilement par l'allaitement, parce que souvent, il y a un petit désordre qui se crée à un moment. Mais en fait, ça concerne tous les bébés, donc ça concerne le postpartum. Voilà, ça concerne
et les adultes. En fait,
et les adultes, vois, en plus, qui n'ont pas été traités, donc finalement tout le monde est concerné.
Donc c'était intéressant. Et tu vois, maintenant aussi pour l'allaitement, j'entre donc dans une nouvelle phase où j'ai un bébé très éveillé et où, eh ben, des fois elle s'arrête, elle regarde. Moi j'ai jamais eu ça avec Ella parce que c'était un nourrisson. Où elle fait des pauses à des moments pas du tout propices parce que j'ai le jet qui va dans tous les sens, et je suis là, mais non, mais remets ta bouche, elle en a partout, j'en ai partout, enfin bon, génial. Donc je trouve ça chouette, c'est drôle, c'est que je fais que découvrir des choses. Donc depuis, j'ai acheté des livres, j'ai lu le livre, le manuel de l'allaitement tétée en tétée, je sais plus comment,
ouais, de Caroline Guillot, voilà. De tétée en tétée, ouais, le conte et le manuel très illustré d'allaitement.
Exactement, donc comme ça, voilà, j'ai balayé un peu tous les trucs, j'ai compris ce que c'était une mastite, enfin voilà, tu vois, j'ai quand même des notions un peu plus correctes sur l'allaitement. J'ai lu le livre de Ina Megaskin, Le guide de l'allaitement au naturel, je trouve qu'il était très intéressant aussi. Donc je me suis quand même un tout petit peu plus documentée, je repose des questions à Julie, qui est la consultante en lactation, enfin voilà, je m'intéresse à plus de choses. J'ai aussi fait le lien avec la vitamine D. Donc nous, notre fille, je lui ai donné 5 vitamines D différentes. Les 5, c'est vomi dans les 5 minutes qui sortent. 5 minutes, mais même pas. Un vomi, c'est pas une régurgitation. Vomi, un geyser.
Toutes les vitamines D. Il y en a pas une qui passe.
Pas une seule qui passe. Donc ça, déjà, tu vois, c'est un truc auquel tu t'es pas préparé. Parce que du coup, je me disais, mince, c'est les freins, c'est l'allaitement, c'est voilà. Enfin, tu te questionnes sur plein d'autres choses. Et donc, on s'est rendu compte que c'était la vitamine D. Et je le dis parce que peut-être qu'il y a des mamans ou papas qui capteront. Ah, mais moi aussi, mon bébé, il vomit direct. Ouais. C'est un gros.
Et du coup, t'en as pas trouvé une qui convenait?
Du coup, j'en prends une. De toute façon, de base, tous les jours, j'ai 3 gouttes. Et ben, j'en ai mis 10. Et elle prend par mon lait. Donc, on fait comme ça pour l'instant. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tolère mieux ça, j'imagine. Ça viendra. Mais tu vois, ça découle de plein de petites choses après où tu te poses des questions sur plein de trucs. Et voilà, là, on est à 4 mois de sa vie et l'allaitement, là, je dirais que c'est cool, tu vois. Mais c'est un bébé qui tète encore toutes les 2-3 heures la nuit. Voilà. Elle n'a pas encore réussi à enchaîner. Quelques fois, elle a enchaîné 4-5 heures.
Ouais.
Mais on n'y est pas. Bon, en même temps, elle est costaude, hein, donc ça se voit qu'elle mange bien, quoi.
On n'est pas inquiet, elle mange assez.
Ouais, elle aime ça.
Alors, tu dis, cette fois-ci, j'ai envie d'allaiter longtemps. Je vois ça comme un projet à plus long terme. Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Ou alors, non, est-ce que tu te laisses porter, mais que juste, voilà, cette fois-ci, en tout cas, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption à cet allaitement-là, parce que t'es, bah, voilà, ta vie professionnelle, on le sait, elle est en grande partie dirigée par le podcast. Alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a un objectif ou pas pour cet allaitement?
Non, j'ai pas d'objectif et je vais faire rigoler, mais c'était très ridicule ce que je vais dire. Mais donc j'ai beaucoup de chance d'être très proche de Alison Cavaillé, encore une fois, qui est la fondatrice de Tagine Banane, et donc je peux voir les collections en avant-première. Du coup, tu vois, par exemple, nous sommes en janvier, je sais les collections qui vont sortir au printemps qui sont trop belles. Et bon, bah déjà, rien que ça, c'est ma carotte. Tu vois, juste ma carotte de me dire, c'est mort, je n'allaite pas avant d'avoir testé ça. Et tu vois, pour la naissance de Jasmine, elle m'a offert la robe blanche qu'elle a sortie, qui est incroyable. Elle m'a dit, bon, c'est ma dernière, tu vois, il en reste plus, je l'ai gardée pour toi. Et ben, le problème, c'est qu'elle me l'a offert, Jasmine est née fin septembre, j'ai pas pu la mettre parce que c'était... Donc moi, je veux absolument pouvoir la mettre cet été, tu vois. Donc... Clairement, non. Alors, ce qui est cool, c'est que je ne me suis pas fixé d'objectif. C'est ça, c'est chouette, parce que ce n'est pas de pression, on verra. Pour moi, ça me va très bien, notre rythme comme ça ne me dérange pas. Le Covid, la pandémie, quelque part, c'est une chance pour mon allaitement, dans le sens où, d'habitude, à cause de mon autre métier, je pars beaucoup en déplacement. Là, tout est annulé. Donc, je n'ai pas besoin de me poser la question comment je fais pour... lui donner le biberon quand je suis pas là pour machin, ben non, je suis là, donc je peux l'emmener avec moi. Donc c'est aussi un poids en moins pour moi, parce que ça veut dire que je peux sereinement vivre mon allaitement sans me poser la question. Donc ça, je trouve que c'est bête, mais ça m'aide beaucoup. Et puis après, tu vois, il y a mon père qui, à chaque fois qu'il me voit, me dit « Mais tu comptes l'allaiter combien de temps encore ?» Pourtant, j'ai été allaitée, hein, tu vois. Mm. Mais je pense que mon père, il dit ça parce qu'il a peur que je sois fatiguée. Tu vois, il n'arrive pas à voir que ça peut être un truc que j'ai choisi, qui ne me dérange pas. Et quand je dis « je ne sais pas », je pense que c'est ça son intention derrière, tu vois. Mais voilà, un an et demi. J'arrive pas encore à me projeter à allaiter un bambin, je suis honnête. J'avais, avant de commencer à allaiter, j'ai une de mes super copines qui a allaité un bambin et j'avais trouvé ça trop chelou. Et Myriam, je m'excuse 100 fois si tu écoutes, mais je lui ai déjà dit. Et aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi elle a fait ça, tu vois. Donc, j'arrive pas à m'imaginer le faire. Mais comme tout, je vais être humble, hein. Et ça se trouve, dans 2 ans, je serai encore en train d'allaiter. Donc, j'en sais rien.
Peut-être.
Tant que c'est possible, je le fais, franchement. Et puis, tu vois, hier avant-hier, j'ai partagé sur mon compte le fait que... Donc, je travaille dans le rugby aussi, qui est un milieu extrêmement masculin. Et quand j'ai repris au mois de décembre, je leur ai demandé, le plus naturellement possible, par mail, est-ce que vous pourriez avoir une salle à dispo sur le match, parce que j'ai besoin de tirer mon lait à la mi-temps. Et ils m'ont tout de suite répondu, mais avec grand plaisir, on te trouve une salle. Enfin, le mail, il est trop chouette, tu vois. Il me disait que le PC sécurité n'aura jamais eu une aussi belle fonction. Enfin, tu vois, de la part d'hommes, dans un milieu d'hommes, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai posté ça. Et tout de suite derrière, il y a un autre club de rugby qui m'a envoyé, mais nous, on t'offre la loge. Et un autre qui m'a dit, moi, je t'offre le plus gros bureau. Et tu vois, c'est Non, mais c'est con, trop mais chou. Ça m'a fait me dire, ok, en fait, en étant hyper transparente, en montant de manière positive les choses, bah, peut-être que je peux faire changer les mentalités et rendre ça un peu moins tabou dans des milieux d'hommes. Parce que du coup, beaucoup de femmes m'ont écrit derrière pour me dire « Ah, moi, je suis dans le bâtiment, c'est chaud. » Enfin, voilà, tous ces corps de métier qui sont traditionnellement réservés aux hommes, pour les femmes, c'est quand même galère. Et tu vois, quand j'ai envoyé ce mail au responsable de la com de l'UBB, je l'ai fait en sachant que j'étais dans mon bon droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de me le refuser. Donc, je connais mes droits. Donc, je l'ai fait sans le piéger, c'est pas ça, mais de me dire « S'il me dit non, je sais ce que je peux lui répondre. Je sais qu'il n'a pas le droit de me dire non. » Donc, on part d'un postulat où c'est simple. Je vais lui demander et il n'y a pas de galère, en fait. Et j'ai la chance d'avoir une position qui fait que je peux dénoncer les choses si jamais ça avait été illégal, ce qu'il m'avait répondu. Donc, ce qui n'est absolument pas le cas, hein, je tiens à le dire, ils ont été géniaux. Donc, mais au fond de moi, je savais que j'avais cette option. Donc je le dis parce que c'est peut-être ça peut encourager les femmes à y aller franco et dire j'ai besoin de ça, c'est comme ça, et vous démerdez, en fait.
C'est dans vos droits.
Voilà, c'est dans vos droits. En ayant cette idée en tête, c'est dans vos droits. Donc tu vois, je sais que peut-être que je vais allaiter aussi pas longtemps, mais au moins quand je continue de travailler dans ce milieu-là pour dire bah ouais, regarde, je peux être une meuf cool avec un micro à la télé et allaiter mon bébé, en fait.
Juste pour les éduquer.
Exactement.
Puisqu'on parle d'homme, parlons de ton homme. On dit que la place du papa dans l'allaitement, elle est... Ah, il est pas loin.
Ouais, c'est ça, il regarde.
On dit que la place du papa, elle est importante dans l'allaitement, le soutien qui peut être. Je sais aussi que à travers ton podcast, tu milites, tu vois, en quelque sorte pour un partage des tâches dans le postpartum. Et l'allaitement, bah, en fait plus que partie, puisque c'est quand même un gros job que de nourrir un bébé. Comment ça s'est passé chez vous? Comment et la première et la deuxième fois vous avez pu équilibrer ces tâches, ou comment il t'a soutenu finalement? Est-ce qu'il a pu être là pour toi? Est-ce qu'il comprenait l'importance d'être là pour toi la première, la deuxième fois?
Ça a été c'est une bonne question, parce que ça a été un très gros sujet de discorde entre lui et moi et qui m'a fait beaucoup souffrir et qui m'a généré beaucoup de colère pour ma première fille, parce que clairement il a été complètement absent, mais vraiment, mais c'était chaud. C'est là que je me suis rendu compte à quel point les hommes sont éduqués pour être égoïstes quand même sur certains points. Parce que, tu vois, je vais te dire un truc tout bête, mais une fois, au bout de 3-4 semaines, je lui dis « Est-ce que tu veux bien aller me chercher un petit déj ?» Il m'a dit « Non, j'ai pas envie. » Et il s'est barré.
Fine, ok.
Voilà. Bon. Alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais ça a été vraiment le choc pour moi de voir que... Et il m'a complètement laissé prendre en charge cette partie-là sans, en contrepartie, me prendre en charge. Tu vois, il y a une très belle image de The Rock. Je pense que tout le monde voit qui c'est, Dwayne Johnson. C'est une montagne, c'est un acteur américain qui a posté une image sur les réseaux sociaux où il nourrit sa femme qui, elle, est en train d'allaiter. Il dit, voilà, c'est ça notre rôle en tant que père. Et lui, c'est le summum de la virilité tel que les mecs l'imaginent, tu vois. On doit nourrir la mère pendant que la mère nourrit le bébé, tu vois. Je l'ai montré plusieurs fois à mon mec, hein, parce qu'il est fan de The Rock.
T'as vu?
Et on a eu aussi un autre point, donc ça, c'était pour te donner le ton sur comment ça s'est passé mon allaitement et comment il a pris soin de moi, c'est-à-dire néant.
Ouais, on partait de là.
Voilà, on partait de très loin. Et puis, il y a eu plusieurs fois où je lui disais que j'étais incommodée par certaines personnes qui m'observaient pendant que j'allaitais. Et lui, sa réponse a été de dire « Bah, t'as qu'à aller te mettre dans la chambre aussi ». T'as pas besoin de t'exposer, mais en gros c'est à toi de t'enlever si t'es pas contente. J'avais trouvé ça tellement injuste, parce que je disais, mais attends, déjà moi ma vie elle est chamboulée de A à Z, la tienne pas du tout, et pendant que j'allaite il faudrait que je me coupe socialement. Non, je suis pas d'accord, en fait j'aimerais que toi tu me défendes et que tu dises, bah là on peut la laisser tranquille Clémentine, mais tu vois, c'est à dire que je participe encore aux interactions, mais qu'il y a pas quatre regards qui sont sur mes seins, quoi, en gros. Ça a été très difficile, parce que je me suis sentie vraiment blessée par ça, par sa réaction, par le fait qu'il ne m'ait pas défendue, en fait, ni protégée, parce que c'est vraiment une période vulnérable. Et quand j'ai entamé ma thérapie derrière, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup de fois. Et il y a eu une fois où j'ai réussi vraiment à lui en parler et où il m'a demandé pardon. Et ça a été vraiment un moment de soulagement pour moi, où il y a beaucoup de colère qui s'est enlevée ce jour-là, parce qu'il m'a écoutée et qu'il m'a dit « je ne m'en rendais pas compte ». Que je devais te protéger ou que c'était si gênant pour toi. Et tu vois, j'ai un peu les larmes aux yeux en disant ça, mais parce que c'était, ça avait été tellement difficile de me sentir dans cette position de vulnérabilité que j'avais besoin de son soutien que j'avais pas. Et tu vois, quand j'ai eu Jasmine, bon, on était dans un autre état d'esprit. Hein, j'ai eu tous mes petits déj, tous mes repas. Enfin, il y avait aucun souci là-dessus. C'était vraiment pas un problème. Il s'est vraiment occupé de moi, de notre grande. Pas de problème là-dessus. Mais il y a eu un moment où on s'est retrouvé dans cette même situation de personne qui me gênait pendant mon allaitement, on va dire. Et je lui ai tout de suite dit, et j'ai eu peur en lui disant, parce que j'ai eu peur qu'il ait la même réaction, et il m'a dit tout de suite, aucun souci, je m'en occupe. Et il l'a fait tout de suite. Oh, ça a été tellement, pour moi, je ne sais pas comment dire ça, tu sais, de se sentir comprise et de sentir que ça, ce qui a de l'importance pour moi, bah, il l'a vu. Oh là là, c'était trop beau. Et je pense que, tu vois, les personnes dont je parle, c'était pas mal intentionné, mais ça me gênait vraiment. C'était voilà, on a toutes vécu ça, je pense, à un moment dans l'allaitement. Hein.
C'était quoi? C'était des regards insistants? C'était...
Ouais, c'est des gens qui, tout de suite, quand j'allaite, viennent, tu vois. Enfin, restent collés et au lieu de me laisser tranquille, participer à la vie, tu vois, mais j'avais vraiment du mal, tu vois, avec ça. Enfin, je me sentais dérangée, c'est mal à l'aise. Et tout de suite, il a réglé le problème, en fait, tout de suite. Et c'était génial. Enfin, voilà, c'était rien à voir, quoi. Donc voilà, tu vois, tout le monde peut cheminer. J'espère que je peux donner de l'espoir aux femmes qui ont un compagnon qui ne fait pas attention parce qu'il y a un manque d'éducation pour eux. Et bah, c'est comme ça, quoi. Malheureusement, c'est avec ton podcast, avec des supports qui font que ça changera. Hein.
Tout à fait. Et pour le post-frénotomie, tout ça, il a pu t'aider aussi?
Oui, bon, là, j'ai dû lui mettre un petit taquet. Mais pour lui dire,
c'est pas facile, hein, ces exercices. C'est vrai
non,
que
c'est sûr.
Voilà, c'est pas facile. On sait qu'on embête les bébés à ce moment-là. Salut, Jasmine. Vous verrez pas, mais j'ai Clémentine en face de moi en visio. Et donc, il y a Jasmine qui est arrivée avec Clément. Et c'est vrai que Jasmine mange bien. Il n'y a pas de souci. Elle a des bonnes
joues. Tu vois ses joues.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup?
Non, que c'est dur les exercices.
C'est pas facile à faire et qu'on n'est pas tous aussi à l'aise avec voilà, une bouche de bébé, une cicatrisation, l'idée de faire mal à son enfant éventuellement, de le déranger. Est-ce qu'il a réussi à t'accompagner là-dessus ou c'était dur pour lui?
Non, c'était dur. Il fallait que je rappelle. Il faut, voilà, c'est charge mentale, quoi, normal.
Ouais, comme tu le disais, en plus, il avait un rapport à la douleur, ne serait-ce que des enfants avant même ça qui étaient.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est un des paramètres. Il m'a dit oui, mais moi j'ai trop peur de lui faire mal, j'y arrive pas. Donc je comprends. Mais... Non, mais oui, voilà, ça reste un des trucs où voilà, t'es celle qui a l'aide, donc t'es plus en charge du truc. Mais bon, écoute, si ce n'est que ça, je signe.
Hein, ouais.
Je me dis que nos filles dans 30 ans, elles auront évolué.
Tu signes, et puis bon, si tu fais tes petits déj et tout, c'est quand même trop cool.
Ça, exactement, c'est déjà, ça devrait être la norme, hein, mais je sais que c'est bien.
Du coup, tu dirais quoi à une maman qui a envie d'allaiter, qui se pose la question de est-ce que je vais allaiter ou pas, qui s'est pas forcément renseignée, mais qui t'écouterait parce qu'elle te connaît, mais qu'elle se dit tiens, je vais écouter son témoignage autour de l'allaitement, mais j'y connais rien. Tu lui donnerais quoi comme conseil?
Je sais pas, tu sais, c'est une très bonne question puisque ma sœur attend un bébé et elle sait pas du tout si elle veut allaiter. Et elle trouve ça trop chelou, les gens qui allaitent pendant 2 ans et tout. Bon, en fait, elle est clairement comme moi avant que j'allaite ou que j'ai un bébé. Hein. Et je sais, et c'est une vraie question. Je ne sais pas comment lui dire que c'est ouf sans avoir la sensation de lui imposer quelque chose, sans avoir la sensation de lui couper tout cheminement qu'elle puisse avoir. C'est très compliqué. C'est dur, hein, donner des conseils. C'est vraiment pas un exercice simple. Ce que ont fait les sages-femmes pour moi était génial, c'est-à-dire avantage-inconvénient, on vous laisse le choix. Parce qu'une fois que tu as les informations, bah, c'est que ton choix, et ça c'est très bien. Les femmes, elles ont le choix, elles ont le droit d'avoir le choix. Donc je ne sais pas ce que je pourrais dire. À part
si c'était à refaire, tu t'informerais un peu, toi? Ou pas?
Non, parce que finalement, tu vois, le choix, je l'ai fait. Et je l'ai fait en vraie conscience que c'était ça que je voulais, à l'été, finalement. Donc non, je suis très contente du parcours que j'ai eu finalement. Et puis je pense aussi parfois quand tu te poses pas trop de questions, bah, ça, c'est peut-être plus simple, je sais pas, tu vois, j'ai pas surinterprété les trucs de l'allaitement avec Ella, ça s'est fait. Bon, j'ai eu la chance, ça avait pas de frein. Mais non, je referai tout comme j'ai fait, tu vois, c'est juste de me dire, pour ma sœur, ça sert à rien que j'essaye de la convaincre en fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire à une maman qui ne sait pas ? C'est à elle de faire son propre chemin, quoi. C'est...
Ouais.
Mais encore une fois, faire son propre chemin en ayant les informations. C'est, voilà, voilà. En, vraiment, et en s'enlevant de la tête que c'est une aliénation d'allaiter son bébé, parce que malheureusement il y a une partie, je le répète très souvent, mais une partie du féminisme qui est dans cette pensée là auquel nous on est biberonnés, c'est le cas de le dire. et c'est difficile de s'en défaire, donc il faut regarder les informations avec un autre regard, et c'est le truc que j'ai eu du mal à faire, moi. Mais une fois que je suis devenue mère, c'est bon, c'était facile.
Ok, et alors, bah du coup, là, l'allaitement, ça a changé quoi dans ta vie ? Quelle place ça a pris dans tes matrescences ?
Mais je pense que ce que je te disais au début, c'est que le fait que j'ai pas eu l'accouchement... j'avais pas d'accouchement rêvé, mais j'ai pas eu un accouchement que je méritais. Bah, ça m'a permis de créer ce lien très fort avec mon bébé. Donc, quelque part, ça a rattrapé le déficit que j'ai pu ressentir à la naissance de Ella. Contrairement à Jasmine, où clairement la naissance était incroyable, donc j'ai pas eu de problème de shoot d'amour, tu vois, y a pas de déficit là-dedans. C'était un vrai choix éclairé, donc pas de problème. Puis ça a changé quoi ? Plein de trucs, l'allaitement, mais plein de trucs. Tu vois, alors si, putain, ça fait depuis que je sais que tu m'interviews, j'y pense, et je me dis, il faut que je le dise et tout. Je pense que je suis pas du tout la seule, mais moi, j'ai l'impression d'avoir deux bébés différents. D'avoir le bébé que j'allaite et d'avoir le bébé que je vois en face de moi tous les jours. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Jasmine tous les jours quand je l'allaite, même physiquement, je trouve que c'est pas le même bébé. Le regard que je porte sur elle, comment elle me regarde. Et j'avais eu cette sensation avec Ella. Parce que tu le vois que de profil, parce qu'il y a quelque chose qui se joue, parce qu'ils sont abandonnés sur toi, parce que t'es la nourricière, donc t'as un rôle particulier. Et quand je vois ma fille, tu vois, tu la vois à la face... Ce n'est pas du tout le même bébé que je vois quand j'allaite. Et cette sensation est trop bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir un bébé que à moi pour l'allaitement et l'autre bébé pour tout le monde, tu vois.
Est-ce que c'est le côté un peu animal, tu vois, et instinctif de l'allaitement quand ils sont au sein ?
Mais sûrement, mais je te jure que cette sensation, elle est trop bizarre. Parce que quand je la regarde, je me dis, mais non, c'est pas le même bébé que je vois quand je l'efface, vraiment. Et là, je sais que ça m'avait fait ça. Ça t'a pas fait ça, toi ?
Là comme ça non, je me souviens de mon bébé, tu vois, les yeux moitié révulsés là quand ils se mettaient au sein, et ça me fait penser à mon mec qui adorait le regarder commencer à téter, se brancher et commencer à sentir le lait arriver, et là c'était genre le gosse qui s'abandonne, et il me dit voilà, là il a des yeux, c'est, on sent que c'est l'ultime bonheur, quoi.
C'est clair. C'est ça.
Ça me fait penser à ça. Ok, bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu t'es dit que tu voulais me dire ?
Non, non, c'est bon, c'était le dernier truc, tu vois.
Bon, alors, avant de partir, tu vas passer, comme tout le monde, à l'interview Fast Milk.
Vas-y.
Clémentine, quelle est ta tétée la plus insolite ?
Ah, j'y réfléchis à celle-là, elle était trop facile. Quand je te dis qu'on est incroyables, les femmes... J'ai allaité Jasmine en essuyant les fesses de ma grande qui faisait caca.
Ça, c'est joli.
Pas mal.
C'est pas mal. Est-ce que c'est pas la deuxième question ? Quel est le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement ?
Bon, soyons tout honnêtes, on va tous aux toilettes, aux toilettes avec notre bébé au sein. Hein. Faut être absolument clair là-dessus et aucune honte, hein, on n'a pas le choix. Mon mec, quand il a découvert ça, il fait « Ah, mais c'est trop... » Je dis « Oh !» Attends, t'es gentil, tu crois que je fais comment sinon ? Quand ils sont tout petits, ils sont pendus au sein, t'as pas le choix. Je saurais pas te dire, hein, du coup.
Mais tu peux trouver un truc vraiment glamour, sans que ce soit ironique.
Non, hein. Si, c'est chouette. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une vidéo avec Alison pour ta jean banane, pour la loloterie, où j'ai fait le rôle d'une présentatrice télé, donc mon métier, et où j'ai allaité Jasmine en plein direct, et je trouve ça ouf. Et je me dis, mais en fait, ça devrait être ça mon... Enfin, j'aurais pas à pouvoir allaiter en direct, mais si tu veux, pouvoir faire mon métier en ayant mon bébé et pouvoir allaiter sans problème, quoi. Voilà, ce sera ça, on va dire, le plus glamour, cette vidéo. Okay. Lolo.
On vous remettra, je vous remettrai en story après la diffusion le lien de ce post. ta position préférée, Clémentine, dans le Kamasutra de l'allaitement ?
Moi, j'aime bien être allongée dans le lit parce que c'est le seul moment pendant tout le post-phrénectomie où Jasmine ne pinçait pas la nuit. bizarrement. Toutes les tétées de nuit, pas besoin de faire l'euro, pas besoin de... Enfin, pas de sensation douloureuse. Donc, je pense que c'est la position où elle est le plus détendue, et moi aussi. Donc, mais tout le monde n'a pas un lit à sa portée. Tout le temps. Donc, ouais, la nuit dans le lit.
Ok. Et alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton ou tes allaitements, je pense que là, définitivement, il va falloir deux mots. Oui. Un pour le premier allaitement et un pour ce début ou milieu, où on ne sait pas, de deuxième allaitement. Qu'est-ce que tu dirais ?
Pour Ella, c'était vraiment comme ça que je suis tombée amoureuse. Donc, je dirais, c'est de l'amour. Et pour Jasmine, je dirais que c'est la persévérance.
Merci Clémentine.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'étais un peu genre, tu vois, honorée de te recevoir aujourd'hui. Ouais, vraiment. Je crois que le podcast, j'ai vraiment découvert à travers la matrescence. C'est ma cousine un jour qui m'a dit, il faut que tu écoutes ce podcast. C'est super intéressant et ça permet de s'éclairer sur plein de choses et des sujets sur lesquels je me documentais. Et je me suis dit, waouh, quel taf. Enfin, je trouve que ce que tu fais vraiment, c'est d'utilité publique. Alors merci, surtout continue, parce que ça aide les mamans, ça aide les papas, ça aide les parents, ça donne de l'aplomb pour vivre les choses en conscience, en étant informé. Voilà, on en a cruellement besoin dans notre société. Alors voilà, merci d'être cette voix qui diffuse aussi fort. C'est génial. Continue encore et encore. Donc voilà, j'étais très honorée de te recevoir aujourd'hui, que tu me racontes tes histoires d'allaitement à toi.
Merci beaucoup, Charlotte. Je suis très touchée.
Et puis voilà, que te dire d'autre, que vous dire d'autre. Si vous ne suivez pas déjà Clémentine, vous pouvez la suivre à travers son compte @lamatrescence. Et puis voilà, si vous ne connaissez pas, surtout, allez voir ses podcasts. Moi, je pense qu'il ne se passe pas une journée au cabinet sans que je recommande un épisode à l'écouter en fonction des problématiques que les gens apportent. Il y a pas grand chose à acheter, hein. Je crois qu'il n'y a rien à acheter d'ailleurs.
Merci beaucoup.
De rien, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker.
Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just there. I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.